Alors nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 pour lire et relire encore, puisqu'il s'agit de notre troisième étude sur cette lettre à l'église de Philadelphie, chapitre 3, versets 7 à 13. Chapitre 3. Versets 7 à 13. Écris à l'ange, au messager, parce que c'était un terme qui était utilisé même dans la synagogue juive, donc, pour évoquer le principal conducteur de la synagogue, le terme ange pouvant être traduit par « messager », par exemple, écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comme je le disais à l'instant, nous avons déjà derrière nous deux premières études sur les quatre de cette série qui s'achèvera donc avec l'étude de cet après-midi. Cela signifie que nous nous sommes arrêtés d'une part sur le verset 7 qui nous décrit brièvement mais avec quelle puissance le signataire en quelque sorte de la lettre, et nous nous sommes arrêtés sur le verset 12 qui lui contient une promesse. Promesse que l'on retrouve, bien entendu, avec un contenu différent à la fin de chacune des autres lettres adressées à ces sept églises de la Turquie d'Europe, comme nous disons maintenant, c'était l'Asie mineure, en particulier la Turquie d'Europe. Alors nous avons remarqué, je ne veux pas trop m'attarder sur tout ce que nous avons partagé hier, parce que sinon nous n'irons pas au bout jusqu'à cet après-midi, ce serait dommage. Et simplement souligner que l'auteur de la lettre insiste dans le vocabulaire qu'il utilise pour se présenter, insiste sur sa divinité. Par l'utilisation de ces deux mots, le saint, d'une part, le véritable, d'autre part. Et nous avons épluché hier ces deux mots, les replaçant dans leur contexte général. Le premier, nous l'avons placé en particulier dans le contexte des écrits du prophète Ésaïe, puisque le prophète Ésaïe a été par excellence le prophète du saint, du Dieu trois fois saint. Et nous avons remarqué ensemble que le saint était une appellation exclusivement réservée à Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils. Le saint, le séparé, le différent, celui qui est aux antipodes, celui qui a ses qualités de justice, d'amour, de pureté, au sommet le plus inaccessible qui soit, au point que, vous le sentez, j'ai de la peine à exprimer la chose. Comment parler du Dieu trois fois saint? Comment exprimer, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'être libérés de nos limites pour pouvoir exprimer toute la valeur de Dieu. Et je bénis Dieu de ce qu'un jour, dans le ciel de gloire, je ne serai plus un homme garrotté par mes limitations dans le langage pour pouvoir exprimer et décrire la beauté de mon Dieu. Parce que je me rends compte continuellement que je me heurte à mes propres limites dans le langage lorsque je veux exprimer quelque chose sur Dieu. Et je pense que c'était là le grand problème de l'apôtre Jean, par exemple. Lorsqu'il devait communiquer à l'Église et au monde, pour des générations et des générations, un message qui le dépassait, n'est-ce pas? Comment parler du ciel pour être compris? Alors que le ciel dépasse infiniment le plus beau de tout ce qui peut exister sur la terre, n'est-ce pas? Ça a dû être quelque chose d'infiniment difficile que d'exprimer le contenu de vision céleste. Ainsi en est-il lorsque nous devons évoquer la sainteté de Dieu. C'est l'indescriptible, rendu d'ailleurs par un mot dans les Écritures, la gloire. La gloire de Dieu, c'est sa sainteté. Littéralement, selon la définition du mot hébreu dans les Écritures, la pesanteur de Dieu. Ce Dieu qui a un poids infini dans la perfection de son caractère et dans la perfection de ses œuvres. La pesanteur de Dieu. Et puis, le Dieu véritable. Et qui sait si simplement cette expression s'inscrit à contrario du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui s'éloigne à une vitesse grand V de la vérité. Qu'est-ce qui est encore vrai autour de nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est encore vrai dans les relations entre les hommes, dans les promesses électorales? Mes amis, où est la vérité? Et ici, voilà, nous sommes en présence du véritable. Et vérité, dans les Écritures, c'est un mot, nous aurions pu passer d'ailleurs beaucoup plus de temps sur ce mot, puisque la racine en hébreu de ce mot en a donné au moins deux, à savoir le mot vérité et le mot fidélité. La racine a donné le petit mot hébreu que nous utilisons tous, nous faisons tous de l'hébreu sans le savoir, hein, amen, amen, amen. Emouna, en hébreu, c'est la fidélité, la fiabilité, le fait qu'on puisse mettre sa confiance dans quelque chose ou quelqu'un qui est solide, qui est profondément enfoncé, enraciné dans le sol, on peut s'appuyer dessus, ça tient. Vous avez émettre, même racine, C'est le terme dont nous avons l'équivalent ici en grec et qui s'exprime par cette expression le véritable, émet. Là aussi, un mot extraordinaire qui a été terriblement aimé des rabbins. Tout simplement parce qu'il a cette particularité, c'est qu'il est, il est composé de trois lettres dans l'alphabet hébreu. La première lettre de l'alphabet hébreu, la lettre du milieu dans l'alphabet hébreu et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et les rabbins se sont plu à dire que, étant composé de cette manière, début, centre et fin de l'alphabet hébreu, il est comme le symbole de cette fidélité, de cette fiabilité, de cette solidité, de cette transparence, de cette loyauté de Dieu qui parcourt la parole de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, du commencement à la fin en passant par le milieu, n'est-ce pas ? Dieu, le véritable, c'est ainsi que se termine, nous l'avons vu, la première épître de Jean, chapitre 5, où il est dit donc au verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous le malin, littéralement. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est comme ça que ça se termine, avec ensuite cette mise en garde. Attention, petits enfants, gardez-vous des idoles. Il y a d'une part, d'un côté, le Dieu véritable, et à côté de ce Dieu véritable et opposé à ce Dieu véritable, tout le reste, ce sont des idoles. Gardez-vous des idoles. Vous savez combien l'idolâtrie occupe une place dans les Écritures. Et en fait, l'idolâtrie occupe énormément de place dans le problème de nos vies. Elle a revêtu d'autres formes, mais mes amis, elle est tout aussi présente aujourd'hui, en particulier dans nos pays riches. Que d'idoles, hein, la petite reine, hein, dont il était question tout à l'heure, du dimanche matin. Mais il y en a un tas d'autres, hein, mes amis. Gardez-vous des idoles. Alors ça, c'était donc la première partie. L'auteur de cette lettre, c'est le Christ dans sa gloire, totalement Dieu, comme quelqu'un l'a affirmé dans une prière si brève mais si juste, n'est-ce pas ? Nous sommes remplis en lui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la déité. Il est Dieu dans le sens le plus absolu du terme. Il n'est pas un petit Dieu, il n'est pas issu de Dieu, il n'est pas une fabrication de Dieu, il n'est pas une énergie émanant de Dieu. Il est Dieu et en tant que tel, il a participé aux grands actes de l'histoire, à la création, etc., n'est-ce pas ? Voilà le premier point. Le deuxième nous a fait nous arrêter sur la porte, n'est-ce pas ? Il est celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et nous avons vu qu'il y avait là une réminiscence d'un texte du prophète Ésaïe encore, évoquant un gouverneur du palais royal à l'époque du roi Ézéchias, qui portait une grosse clé en bois sur l'épaule. Cette clé annonçant son rôle très important qui faisait de lui le second personnage du royaume, puisque sans son activité, nul ne pouvait entrer dans la présence du roi. Il prenait des décisions extrêmement importantes. Il était gardien du palais royal. Nous avons remarqué que derrière ce texte d'Ésaïe se cachait aussi ce qu'on appelle une prophétie messianique. Un jour viendra celui qui véritablement aura la clé de David, celui qui véritablement ouvrira et personne ne fermera, celui qui fermera et personne n'ouvrira. Et ce quelqu'un, ce sera le fils de David et le Seigneur de David, le Christ, le vivant, le Messie. Alors nous sommes attardés quelque peu hier soir sur ce Dieu qui ferme et qui ouvre les portes dans toutes sortes de domaines pour voir l'importance de cette fonction et l'importance d'une juste attitude dans nos vies lorsque Dieu nous place devant une porte fermée, qu'il est prêt à en ouvrir une autre, etc. Et puis dans la dernière partie de notre réflexion d'hier soir, nous nous sommes penchés quelque peu sur la cité de Philadelphie. Pourquoi ? Parce que c'est de l'histoire de cette cité, de la situation politique, économique, religieuse, sociale, morale, c'est de tout cela que le Seigneur Jésus-Christ se sert pour dire un certain nombre de choses à l'église de Philadelphie. Et vous vous souvenez que nous avons dit que la double caractéristique de la cité de Philadelphie, c'est que c'est une cité paradoxalement forte et faible. Cité forte mais faible, prospère mais instable. Tout d'abord, une cité qui a changé plusieurs fois de nom au fil de l'histoire. Histoire mouvementée, signe aussi peut-être par certains côtés d'une certaine instabilité, mais peu importe. En tout cas, c'est la seule ville de cette région qui a eu successivement plusieurs noms. Et c'est ce qui va conduire le Seigneur, dans son souci de bonne compréhension de son message, à terminer dans la promesse du verset 12, avec cette expression « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Vous êtes dans une cité qui a changé X fois de nom. Eh bien, parce que vous êtes mes enfants, parce que vous m'appartenez, parce que vous voulez vraiment marcher fidèlement avec moi, eh bien, vous allez recevoir un nom qui ne va pas changer tout le temps. Un nom directement issu des cieux, mon nom nouveau, le nom, la personnalité du Seigneur vu dans la gloire. Ça va être extraordinaire. Rendez compte de la vision du chapitre 1er de l'Apocalypse, n'est-ce pas, ce vieillard largement octogénaire, Jean, qui n'a plus vu le Seigneur Jésus depuis 60 ans. Sa dernière rencontre avec le ressuscité date d'une soixantaine d'années en arrière. Et puis subitement, au son de cette voix qui transperce l'air comme une vibrante trompette, il se retourne et il est décomposé. Il voit en quelque sorte déjà à son époque le nom nouveau, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Et je crois que notre saisissement sera encore plus grand que celui qui a été le sien, lorsque là-haut, nous découvrirons le nom nouveau, la personnalité du Seigneur dans toute sa gloire céleste. Nous aurons été bouleversés dans la découverte du nom de la Jérusalem céleste. On s'imagine, il y a ces textes bouleversants d'Apocalypse chapitre 21, n'est-ce pas ? Cette cité céleste avec sa place particulière, ses portes de perles, etc., n'est-ce pas ? Là encore, description, mais, pardon de le dire, utilisant les joyaux de l'époque, mais qui est d'une faiblesse incroyable, face à la réalité qui se découvrira à nos yeux lorsque nous serons là-haut. Ça, c'était un premier aspect très très important. Nous avons évoqué dans ce cadre la situation géographique, économique et religieuse de la cité, située dans une région fortement volcanique, avec tout ce qu'elle pouvait signifier, d'une part en richesse à cause de son sol fertile. C'était une ville célèbre par sa prospérité. Et parce qu'elle était très, très prospère, elle était aussi un centre corrompu, un centre idolâtre. Et qui sait si là où il y a la prospérité économique, il y a aussi les lèpres de l'idolâtrie et de la corruption, trop souvent. Et puis, également, sol instable, ville souvent sinistré au bord d'une vaste plaine appelée le district brûlé, avec cette anxiété permanente de ses habitants pendant plusieurs années, parce qu'il y avait continuellement des secousses séismiques, et les habitants étaient angoissés, et un certain nombre d'entre eux quittaient leur maison dès que ça secouait un peu pour aller se réfugier dans des petites maisonnettes, dans des petites maisons à toit de chaume, là, aux abords de la ville, pour revenir dès que ça se calmait, pour repartir dès que ça recommençait, n'est-ce pas? Et en face de cela, il y a, au chapitre 3 et au verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Il n'en sortira plus. Promesse merveilleusement appropriée qui évoque la solidité, la stabilité, la sécurité permanente promise par Dieu aux vainqueurs dans la cité céleste. Et comme il y avait une tradition qui consistait dans l'histoire de Philadelphie à graver sur les colonnes, sur certaines colonnes, dans l'un ou l'autre des temples de la ville, le nom de personnes qui s'étaient distinguées d'une manière ou d'une autre, vous avez donc aussi là cette mention au verset 12, n'est-ce pas, je ferai de lui une colonne, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Il y avait là des relations très étroites qui faisaient que n'importe qui à Philadelphie pouvait très bien comprendre ce message. Disons encore simplement, pour aller plus loin, que la position de la ville de Philadelphie était une position clé du point de vue stratégique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, elle était située à la jonction de trois provinces. Imaginez en France une cité d'une certaine importance qui soit située à la jonction, n'est-ce pas, à la rencontre même de trois provinces. Je suis né et j'ai habité pendant 18 ans dans une région qu'on appelle le pays des quatre frontières. Une petite ville qui, hélas, a beaucoup perdu depuis parce qu'elle se situait en zone sidérurgique et minière très importante, et avec la chute, la crise de la sidérurgie, cette cité a fondu comme neige au soleil. Mais à proximité du lieu où j'habitais, à 100 mètres se trouvait la douane franco-luxembourgeoise, à quelques kilomètres se trouvait la zone allemande qui démarrait, et puis de l'autre côté, à très peu de distance, se trouvait la Belgique. Nous étions dans le pays, dans la région, où vous aviez la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne dans un mouchoir de poche. Eh bien, dites-vous un peu que Philadelphie, c'était cela, une cité bien située qui commandait une route transcontinentale qui reliait l'Europe à l'Asie, si vous voulez. Alors, on est au cœur de ce qu'on appelle la Turquie d'Europe, aux frontières de la Turquie d'Asie qui ouvre sur le Proche-Orient et puis sur l'Orient tout court. Puis de l'autre côté, le regard donne sur la grande Europe, porte vers l'Orient, d'un continent vers l'autre. Et elle avait été fondée, cette cité de Philadelphie, par un roi qui avait en tête de propager la culture grecque vers deux de ses provinces, la Lydie et la Phrygie. Peu importe que nous retenions ou non. Mais c'est important, vous allez voir pourquoi. Hein, rappelez-vous qui étiez là hier soir, et je le dis pour les autres, que la pensée dominante des responsables, des autorités, de l'élite de la société dans cette région de Turquie à l'époque, c'était que tout le monde puisse se couler dans une seule culture, dans une seule religion, dans un seul système dominé par la pensée grecque, puisque la philosophie grecque était née dans cette région, c'était son berceau, et parce que l'hellénisme était vraiment visé par la société. Alors, dans le cœur des fondateurs des cités à cette époque, il y avait aussi cette idée de travailler à la propagation de la culture grecque dans ces régions. Et donc, à Philadelphie, la grande idée des autorités, c'était qu'il fallait gagner les autres provinces et les provinces les plus proches, donc la Lydie et la Phrygie, à la culture grecque. Quelqu'un a écrit ceci, un commentateur britannique, c'était une ville fondée dans un but délibérément missionnaire. au-delà de Philadelphie, ont débouché sur les régions sauvages de la Phrygie avec ses tribus barbares. La mission de Philadelphie était de répandre la langue grecque, les coutumes grecques, la civilisation grecque dans ces régions au-delà de la frontière. Philadelphie devait être missionnaire de l'hellénisme pour les sauvages de la Phrygie. Retenez cela. D'une part parce que cette mission a été tenue en échec. Les Phrygiens étaient des durs à cuire. Et ils ont absolument refusé d'être hellénisés. Ils étaient très attachés à leur langue, à leurs coutumes. Ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Vous savez qu'une des sept lettres s'adresse à l'église de Sardes. Sardes était chargée de la même mission que Philadelphie, mais pour une autre région qu'on appelait donc la Lydie. Sardes a réussi. Sardes a vraiment réussi à implanter l'hellénisme en Lydie, au point qu'en 19 avant Jésus-Christ, le lydien n'était plus parlé en Lydie, c'était le grec qui était devenu la seule langue du pays. Ce qui a marché en Lydie de la part de Sardes n'a pas marché en Phrygie de la part de Philadelphie. Ça a été l'échec missionnaire de cette cité. Alors, versets 7 et 8. Voici ce que dit le Saint le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Regardez la deuxième partie du verset 8. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voyez le lien ? Philadelphie, cité missionnaire, destiné à influencer en profondeur toute une région. Échec. Église de Philadelphie, tu as un mandat, et tu as aussi, toi, un mandat missionnaire. Et je t'ouvre une porte pour ce mandat missionnaire. Non pas pour amener des gens à changer de langue, à changer de culture, mais pour qu'ils connaissent le Sauveur, que leur vie soit totalement transformé. Et c'est là que nous arrivons à l'Église. L'Église de Philadelphie, chargée de ce mandat missionnaire, une Église missionnaire. Et l'Église doit être missionnaire. Une Église qui n'est pas missionnaire, quelqu'un l'a dit avant moi, est démissionnaire, n'est-ce pas ? Nous sommes appelés à avoir un... nous sommes appelés, nous avons une vocation missionnaire, vous et moi. Et pour cela, Dieu nous ouvre des portes, là où nous sommes. Et le problème de l'Église, apparemment, du moins pour certains, c'est que l'Église était faible. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Une église qui a peu de puissance. Une église faible, mais forte. La cité de Philadelphie était forte, mais faible. Elle n'a pas réussi dans le domaine missionnaire, malgré tout le potentiel qu'elle renfermait, n'est-ce pas ? Mais l'Église, par contre, était une Église faible, mais forte. Vous vous souvenez, il y a une année, nous nous sommes penchés sur l'Église de Smyrne. Au chapitre 2, verset 9, je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche. L'Église de Smyrne, une Église pauvre, mais riche. Si nous avions pris l'église de Laodicée, verset 17 du chapitre 3, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi,
je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'église de Laodicée, une église riche, mais pauvre. Hein, rappelons-nous cela, ces sortes de paradoxes. Attention à la manière dont nous évaluons les choses. Hein. On te méprise pour ta pauvreté, église de Smyrne. Or, en réalité, à mes yeux, tu es riche. On te méprise pour ta faiblesse, église de Philadelphie. En réalité, à mes yeux, tu es une église forte. Tu es une église puissante. On t'exalte, ou tu t'exaltes pour ta richesse, pour ton potentiel, pour tes capacités extraordinaires, église de Laodicée, mais en réalité, à mes yeux, tu es pauvre, malheureuse, aveugle, nue. Voyez, mes bien-aimés, l'essentiel, c'est pas comment les autres nous voient. L'essentiel, c'est pas comment nous voyons. Ça, c'était Laodicée. L'essentiel, c'est comment Dieu me voit. Comment Dieu nous voit aujourd'hui et maintenant en tant qu'église locale. Ça, c'est la question que nous devons toujours nous poser. Nous sommes toujours intéressés par ce que les autres pensent de nous. Comment les autres nous voient. Et puis, nous avons aussi nos propres idées sur nous-mêmes. Or, mon intérêt, c'est de savoir ce que Dieu pense de moi. Et là, nous avons des surprises. Il y a 3 surprises hein, dans ces 3 églises sur 7, où chaque fois, la vision de Dieu et la vision des hommes est totalement différente. Église faible, mais forte. Tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Quelqu'un a écrit, évoquant le tabernacle, qui était donc le sanctuaire portable, transportable avant le temple de Salomon, n'est-ce pas ? Le tabernacle, vu de l'extérieur, est une tente de poils de chèvre. Dieu n'est pas ici-bas vêtu de pourpre soyeux des rois, mais du manteau rugueux des prophètes. L'église n'est pas l'endroit où se réunissent les gens huppés de ce monde. Parmi elles, il y a peu de riches, peu de nobles, peu de sages, selon les critères humains, 1 Corinthiens 1, 26 et suivant. Dieu choisit tant dans le tabernacle qu'en Christ et dans l'église les choses folles et faibles du monde pour confondre ceux qui sont imbus de leur propre importance. L'église n'est pas le rassemblement des classes moyennes, très comme il faut. Dieu, dans un manteau de fourrure. Elle est le lieu des gens simples, le petit peuple méprisé et insignifiant. Le prince des apôtres était un pêcheur rude de la Galilée. Par contre, le trésorier des disciples était probablement un homme cultivé de la Judée civilisée. Il s'appelait Judas. Église pauvre, église fragile, église faible et méprisable, sans membres influents et fortunés, sans vastes auditoires, sans budgets impressionnants, sans bâtiments considérables. Alors je pense ici à une des séries d'études données juste dans la banlieue de la ville de Québec, il y a très peu de temps, où le pasteur, d'ailleurs, qui il y a relativement peu de temps, je crois 3 ans, était encore en France. Et puis, suite à toutes sortes de circonstances, il a abouti au Québec. Et je le vois encore, qui me conduisait dans les dédales de l'ensemble cultuel dont il était responsable. Avec des bureaux et des pièces qui portaient le numéro 350, etc. Vous savez, dans presque une multinationale. Immense salle, des réunions partout, un institut biblique, n'est-ce pas ? Ah ! De quoi vous faire monter toutes sortes d'idées bizarres dans la tête. Et je dois vous dire que
Nous avons visité un certain nombre d'églises pendant ce séjour récent. Ce n'est pas dans cette grande église que nous avons eu le plus de joie. Et je dois dire que plus j'avance, et dans mon ministère, ça a été un peu la douche écossaise, hein, on passe d'un week-end à l'autre de grandes églises à tout petit noyau. Ce n'est pas toujours et loin de là dans les grandes églises où il y a beaucoup de monde qu'on a le plus le sentiment de la présence de Dieu. C'est fou ce que dès que l'on est nombreux, on se croit riche et puissant. C'est fou. Et certainement que les souvenirs les plus lumineux que nous conservons de ces dizaines d'années de ministère passé, où nous avons vu tant et tant d'églises, ce sont souvent des temps forts dans des petits groupes pionniers, des petites églises, où des croyants ont soif et font parfois 100 kilomètres pour venir écouter la parole de Dieu et pour retrouver leurs frères et sœurs. Prédicateurs éloquents aussi, etc. Elle n'avait pas, elle, de prédicateurs éloquents, elle n'avait pas d'histoire prestigieuse. C'était une église qui avait peu de capacités humaines et matérielles. Tu as peu de puissance. Mais, chapitre 3, verset 8b, tu as peu de puissance, premièrement. Deuxièmement, tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Cette église, pauvre en capacités humaines et matérielles, a veillé à ne pas laisser s'échapper loin d'elle, comme un prisonnier qui réussit à s'évader, sa vraie puissance venant d'en haut. La parole puissante de son Seigneur. Tu as gardé ma parole. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde évangélique, on est en train de laisser s'enfuir la parole de Dieu. Moi, c'est quelque chose qui me fait mal. Nous en avons parlé d'ailleurs dans notre petit déjeuner ce matin. Il y a toutes sortes de tendances qui parcourent nos milieux évangéliques actuellement et qui finissent par discréditer la parole de Dieu. On ne prend plus la parole de Dieu au sérieux. On pense qu'on peut la trafiquer, qu'il faut tellement tenir compte du contexte de l'époque, qu'elle ne signifie plus rien aujourd'hui, etc., etc. C'est dramatique cela, n'est-ce pas? Tu as gardé ma parole. Cette église, pauvre en capacité humaine et matérielle, je le répète, a veillé à garder cet évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'ai retenu cette petite anecdote qui se passe dans le midi de la France où quelques voyous se sont un jour offert le luxe d'une méchante plaisanterie de Nouvel An. Ils volèrent une grosse Bible d'hôtel dans une église, ils évidèrent l'intérieur du livre à 3 ou 4 cm du bord des pages, ils remplirent le creux d'une matière explosive et placèrent le détonateur dans la couverture. La Bible ainsi arrangée fut soigneusement emballée et envoyée par la poste à un vieux pasteur comme cadeau de Nouvel An. Le destinataire défit précautionneusement le paquet et fut réjoui à la vue de la Bible. Il l'ouvrit pour voir s'il s'y trouvait une dédicace et la Bible lui explosa entre les mains. Heureusement, la charge explosive n'était pas dangereuse et il eut plus de peur que de mal. Tremblant, il s'assit dans son fauteuil et réfléchit à cet acte. Et soudain, un sourire furtif éclaira son visage. Il s'assit à son bureau et commença sa prochaine prédication. Le dimanche suivant, il prêcha sur la Bible explosive qui produit dans notre vie des explosions salutaires lorsque nous la lisons comme il faut et acceptons la direction du Saint-Esprit. Les voyous se cotisèrent pour acheter une Bible neuve qu'ils allèrent replacer incognito dans l'église. Ça, c'est une histoire qui finit bien. Il y en a peu qui finissent comme ça aujourd'hui. La puissance explosive de la parole de Dieu. Voyez-vous, l'église de Philadelphie est une église centrée sur la parole de son Seigneur. Elle est
attachée et obéissante à la parole du Seigneur. C'est une église pauvre en ressources d'en bas, mais riche en ressources d'en haut. Rendez compte ? Si même ici, dans ce hameau de l'Ébizé, il y a une église qui est riche en ressources d'en haut, qui n'a pas un bureau numéro 350 et des poussières, hein ? On a vite fait le tour ici. Mais si elle garde la parole de Dieu, ce que le Seigneur peut faire avec elle, ce que le Seigneur peut faire avec nous. Ce Dieu qui ne méprise pas le vermisseau de Jacob. Ce Dieu qui aime son petit troupeau. Quelle différence d'avec ce verdict donné par un homme de Dieu, voilà ce qu'il écrit. À propos de puissance, je dois dire qu'elle nous obsède. Elle est devenue le fondement de la spiritualité populaire. Tout y est interprété en termes de puissance. La religion contemporaine voue un culte à la puissance. Elle emprunte, la puissance emprunte son langage et ses symboles. L'Église a laissé son message être filtré dans la passoire de la puissance et de la gloire du monde. Dans tous nos efforts pour gagner le monde en l'impressionnant, nous avons renoncé au langage de la confrontation de la croix pour celui plus séduisant de la puissance, du pouvoir, du succès, de la victoire. Le véritable pouvoir de notre foi est une puissance que le monde appelle faiblesse. Et la victoire de notre foi est une victoire que le monde appelle échec. Comment est-ce que Dieu voit cette question ? De puissance. Tozer, c'est cet homme de Dieu dont j'ai énormément apprécié le ministère, qui est auprès du Seigneur depuis les années 60, a écrit ceci: la seule puissance que Dieu reconnaît dans son Église est celle de son esprit. Tandis que la seule puissance reconnue aujourd'hui par la majorité du peuple évangélique est la puissance de l'homme. Dieu fait son œuvre par l'opération de l'esprit, alors que les dirigeants chrétiens essayent de réaliser les leurs par la puissance d'intellectuels doués. La personnalité brillante a pris la place de l'onction divine. Seul le travail fait par l'Esprit éternel demeurera éternellement. Seul le travail fait par l'Esprit éternel demeurera éternellement. D'où la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas fuir le message du Saint-Esprit sous prétexte que certains lui accordent une place exagérée et parfois déviée. Parce que c'est un ordre, n'est-ce pas ? Je dois être rempli du Saint-Esprit. Il est la puissance qui veut agir et travailler au travers de ma faiblesse. Souvenons-nous de cela. Écoutez, on va terminer avec cela. 1 Corinthiens 2, 1, 5, l'apôtre Paul, qui avait tant de cordes à son arc, au plan strictement humain, intellectuel, culturel, éducationnel, etc., écrit pourtant à ces Corinthiens qui étaient tellement imbus de leur capacité, puisque Corinthe était une ville prestigieuse sur le plan intellectuel, avec de grandes écoles philosophiques qui rivalisaient d'ardeur, n'est-ce pas, avec un langage merveilleusement châtié. On savait comment parler à Corinthe, c'était extraordinaire. Parler à la corinthienne, c'était tenir de ces discours absolument incroyables, n'est-ce pas. Oh, à côté de ça, on vivait à la corinthienne, c'est-à-dire on vivait une vie absolument corrompue, absolument dégoûtante à cause de tout ce qui se passait au niveau religieux. Et regardez l'apôtre Paul, n'est-ce pas, quand il écrit à ses corinthiens et qu'il leur dit: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou encore le prestige de la parole ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous connaissez ce texte de l'Ancien Testament ? Vous pourrez même me dire dans quel livre il se situe, dans lequel Dieu, pour réconforter un leader découragé, qui manquait certainement de l'audace de la foi, va dire ceci : ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous connaissez ce texte ? Zacharie, chapitre 4, vision d'un chandelier, n'est-ce pas ? Le chandelier va être repris dans les sept églises pour parler de chacune de ces sept églises. La suite du texte dit ceci. « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, le gouverneur de ce petit Judas qui était en train de se reconstituer juste à la fin de l'exil avec environ 50 000 personnes, n'est-ce pas, qui sont arrivées suite au décret de Cyrus pour reconstruire tout d'abord le temple et puis s'occuper de la cité. » Puis il y avait là deux leaders, un leader religieux, c'était le souverain sacrificateur Josué, mais qui était en mauvaise santé spirituelle, il était sale. Et c'est Zacharie 3 qui nous le dit, n'est-ce pas ? Et l'ennemi en profitait pour l'accuser. Et l'ange de l'Éternel a pris position, a demandé qu'on le revête de vêtements neufs, n'est-ce pas ? C'était une annonce du merveilleux travail de Jésus-Christ pour purifier le cœur de l'homme. Et puis, il y avait le gouverneur du pays sur le plan politique, c'était le fameux Zorobabel. Et Zorobabel, lui, il semblait avoir des problèmes, être mal dans sa peau, il manquait d'audace, il avait peur, il était mal à l'aise. Et c'est pour cela qu'il est dit, n'est-ce pas, dans ce beau texte, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements » se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mépris à l'égard de ces rescapés, de ceux qui étaient revenus de l'exil et qui s'étaient engagés à la reconstruction du temple. On les méprisait, on cherchait à les décourager, on a réussi à stopper cette reconstruction du temple pendant une quinzaine d'années. Chacun est rentré chez soi pour s'occuper de sa maison, pour refaire les tapisseries. On a même utilisé le bois qui était destiné à reconstruire le temple pour s'occuper à se faire des belles demeures, n'est-ce pas ? Et finalement, deux prophètes se sont levés, le prophète Zacharie d'une part, le prophète Agée d'autre part. Et de la part de Dieu, ils ont secoué en quelque sorte ce peuple en lui disant « Mais non, mais... je suis avec vous, allez, remettez-vous à la tâche. Ne vous laissez pas écraser par cette montagne qui est devant vous. Ne vous laissez pas mépriser. L'essentiel, c'est que vous comptiez sur ma puissance. Vous êtes faibles, vous êtes peu nombreux, vous êtes entourés d'ennemis. » Ça, c'est le thème du livre d'Esdras et de Néhémie. On ne va pas s'en occuper maintenant, n'est-ce pas ? Mais vous avez tout contre vous. L'essentiel, c'est que moi, je sois avec vous. Quand Dieu veut déplacer une montagne, a écrit un homme de Dieu dont nous reparlerons cet après-midi, ce n'est pas à l'aide d'une barre de fer qu'il le fait, mais en se servant d'un vermisseau. Le fait est que nous sommes trop forts. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il n'a pas envoyé une armée comme nous l'aurions fait. Nous. Il n'a pas envoyé un orateur, mais Dieu a envoyé un homme qui avait vécu 40 ans au désert, qui avait la langue embarrassée. C'est de faiblesse que Dieu a besoin. Nul n'est petit quand Dieu le prend en main. Souvenons-nous de cela. Nul n'est petit quand Dieu le prend en main. Ce qui fait ma grandeur, c'est le Seigneur. N'est-ce pas ? Restons sur ce mot. Ce qui fait notre grandeur, c'est le Seigneur. Je suis faible, je suis petit. J'ai peu de pouvoir sur le plan humain, je n'ai pas un bras très long, je n'ai pas des mandats électoraux fantastiques, mais j'ai un Dieu puissant, merveilleusement puissant. Et quand lui ouvre une porte, nul ne saurait la fermer. Il est fidèle, il est grand. Nous pouvons compter sur lui. Regardons dans la bonne direction. Une église pauvre ?
mais en réalité une église riche. Voilà ce que Dieu veut faire de nos églises, de notre église ici. Une église peut-être pauvre, à vue humaine, méprisable. Il n'y a pas de grande cathédrale ici, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, c'est la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui assure la vraie puissance au peuple de Dieu. Voilà ce que nous développerons encore quelque peu cet après-midi. Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la reconnaissance. Parce que nous n'avons pas de titre humain de gloire. Seigneur, tu t'es choisi un peuple parmi les petits. Non parmi ceux qui se croient en bonne santé. Tu t'es choisi un peuple parmi ceux qui sont méprisés, parmi ceux qui sont malades, parmi ceux qui souffrent et qui sont conscients de leur vulnérabilité, de leur péché, de leurs incapacités. Seigneur, c'est quand nous confessons nos incapacités que tu nous donnes ta capacité. Seigneur, encourage tes enfants ici, dans cette région. Donne-nous de ne pas craindre d'être comptés parmi le peuple des pauvres à vue humaine. L'essentiel, c'est que nous soyons riches en toi. Merci de nous aider dans ces temps si particuliers où l'Église s'éloigne par trop de ta parole. Donne-nous de garder ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons garder ta parole. Cette parole puissante qui a été à l'origine de changements fondamentaux dans notre vie à chacun. Continue, Seigneur, à nous encourager à marcher sur les traces de cette église de Philadelphie pour être riche de ta richesse, afin que tu continues à nous ouvrir des portes dans cette région où tu nous as placés. Nous te bénissons et nous nous réjouissons aussi de vivre tout à l'heure ce temps de repas fraternel. Que cela aussi soit un encouragement pour chacun de ceux qui en ont besoin. Et puis prépare dans ta grâce la dernière rencontre de cet après-midi. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Amen.